RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Les réalisations de CPI nient l'Indonésie est urgente de la corruption. Les peuples autochtones malais de Riau donneront le titre coutumier au président indonésien. Explorer la coopération, l'ambassadeur de l'Inde visite Undisa Singaraja. Le Conseil national de la recherche encourage l'innovation fondée sur la biodiversité. L'Indonésie et la Thaïlande devraient maximiser le potentiel de l'agenda bilatéral. Jakarta est prête à devenir le centre des arts et de la culture asiatique. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a apprécié l'indice de perception de la corruption IPC élevé en Indonésie avec un score de 37. Après la cérémonie d'ouverture de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption mardi à Jakarta, le président a déclaré que les données constituaient la base des succès de l'Indonésie dans sa lutte contre la corruption en Indonésie. Par conséquent, selon lui, il ne devrait y avoir aucune partie ou personne mentionnant que des violations de la corruption en Indonésie sont à un stade alarmant. Compte tenu le nombre élevé d'indices de perception de la corruption qui ont connu une augmentation significative depuis 1998.
Bagus ya, kalau kita melihat dari tadi tahun 98.
Je pense que la réalisation de 1998 à 2018 est si importante. Parmi les pires performances de l'ASEAN, l'Indonésie affiche désormais un score de 37 sur l'indice de perception de la corruption contre la corruption. Nous devons le remercier. Ne laissez pas d'autres personnes dire que la corruption indonésienne atteint le quatrième stade. Ce n'est pas le cas. Nous devons être reconnaissants pour notre indice de performance. Nous devons améliorer notre performance et la surmonter. Comme le président de la Commission d'éradication de la corruption a déclaré que les résultats obtenus par l'Indonésie sont les plus élevés du monde. Agus Raharjo, président de la Commission pour l'éradication de la corruption, a fait remarquer que l'indice de perception de la corruption en Indonésie atteignait 37. Bien que ce nombre stagne pendant 2 ans, l'Indonésie est meilleure par rapport aux autres pays de la région. Si l'on compare avec le même indice en 1998, Agus a déclaré que l'Indonésie est un pays qui a connu une augmentation de l'IPC le plus élevé du monde, avec le score de 17. Ce nombre est supérieur à celui du Vietnam, de l'Argentine, du Nigeria, de la Chine et des Philippines. Le président Joko Widodo prévoyait d'obtenir la titre coutumière de Sri Setia Amanah Negara de l'institution coutumière malaise LAM Riau. Le titre coutumière est la plus haute récompense décernée par les peuples autochtones au président en tant que forme d'appréciation des résultats obtenus jusqu'à présent. Le titre sera épinglé au président Joko Widodo le 15 décembre. Après avoir rencontré le président au Palais Merdeka mardi après-midi, le président du conseil de direction quotidien de l'AM Riau, Datuk Sri Syahril Aboubakar, a déclaré que le peuple autochtone malais de Riau avait certaines considérations de donner les titres coutumiers. L'une d'elles est le succès du président dans l'élimination de la fumée due aux incendies de forêt en province de Riau. En outre, le président a réussi à prendre en charge la gestion du bloc Rokan, qui est contrôlé par Chevron depuis 1924.
Bahwa lebih kurang 17 tahun lamanya masyarakat adat Melayu Riau dan masyarakat
Riau. Il y a environ 17 ans, les populations autochtones malaises de Riau et le peuple de Riau en général étaient frappées par la fumée. Ensuite, le président a décidé de ne plus de fumée, entre autres dans la province de Riau. Alhamdulillah, depuis 3 ans, nous le savons tout. La fumée n'est plus dans notre pays. Ensuite, comme nous le savons, ce bloc de Rokan existe dans la province de Riau et est revenu au peuple indonésien géré par Pertamina. Et Dieu merci, le gouvernement local, par le biais de sociétés régionales, peut gérer conjointement le bloc de Rokan. Datuk Sri Syahril Aboubakar a également indiqué que le peuple autochtone de Riau remercie également le président Joko Widodo d'avoir signé le règlement présidentiel numéro 86 de 2018. Par le règlement présidentiel, les terres coutumières ou ulayat peuvent désormais être certifiées et ont un impact sur la survie et l'avenir des peuples autochtones. L'Université d'éducation Ganesha Undisa Singaraja, la résidence de Buleleng à Bali, a été visitée lundi par l'ambassadeur langue d'Indonésie et au Timor-Leste, Pradeep Kumarawat, pour discuter de la coopération dans le domaine d'éducation avec des universités en Inde. Kumarawat a déclaré qu'en Inde, il y a plusieurs universités qui ont collaboré avec des universités étrangères. La coopération n'est pas seulement liée aux universitaires, mais aussi à la culture et d'autres activités, comme yoga. Iwayan Suwarnajaya, vice-recteur 4 d'Undisa, a déclaré que la réunion avait pour l'objet de discuter de la coopération dans le domaine de l'éducation, notamment des échanges d'étudiants, car jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de coopération avec l'Inde. Suwarnajaya espère qu'il y a bientôt une donnée universitaire qui permet aux invités d'établir une coopération dans l'espoir que la qualité de l'éducation, en particulier d'Undisa, sera meilleure. Jusqu'à présent, selon Suwarnajaya, Undisa a collaboré avec un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur en Thaïlande, en Malaisie et aux Philippines, et certains également dans la région européenne. Le Conseil national de recherche CNR a déclaré qu'en tant que pays riche en biodiversité, l'Indonésie devait développer des innovations basées sur la biodiversité pour faire progresser l'économie. Cela a été dit par le président du Conseil national de recherche, Bambang Setiadi, dans le séminaire national sur le développement fondé sur l'innovation à l'ère industrielle 4.0 qui s'est tenu à Jakarta mardi. L'Indonésie doit intensifier l'innovation face à la révolution industrielle 4.0 et à l'avenir doit faire l'innovation comme un moteur économique. Selon Bambang Setiadi, le Conseil national de recherche ou CNR comprend l'innovation en étudiant deux systèmes. Premièrement, l'innovation fait partie de la protection de la science et de la technologie, mais aussi fait partie du développement économique. Deuxièmement, l'innovation est le résultat d'inventions et de recherches qui, s'il ne peut pas être commercialisé, il n'a pas le droit d'être qualifié comme d'innovation. Bambang a déclaré que le CNR a fait des efforts pour commercialiser à l'étranger les inventions indonésiennes basées sur les ressources naturelles et qu'il continuait d'encourager des innovations plus commercialisées. L'Indonésie et la Thaïlande doivent travailler ensemble pour encourager le programme bilatéral à atteindre le potentiel maximum, y compris les échanges politiques au plus haut niveau, les investissements, la pêche, l'agro-industrie, le tourisme, l'éducation et l'économie créative. L'Indonésie et la Thaïlande doivent également lutter pour le développement durable y compris l'environnement marin, la pêche durable, l'environnement et les énergies renouvelables. Cela a été dit par l'ambassadeur de Thaïlande en Indonésie, Song Paul Suchan, mardi à Jakarta. Selon Song Paul, l'Indonésie et la Thaïlande sont les deux plus grandes économies de l'ASEAN et se complètent. La Thaïlande serait le président de l'ASEAN, tandis que l'Indonésie deviendra un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. À la même occasion, Didi Suhardi, le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la Culture, a déclaré que la Thaïlande était un partenaire commercial important pour l'Indonésie. Les investissements entre les deux pays se situaient également à un niveau très satisfaisant. Dans les domaines social et culturel, l'Indonésie et la Thaïlande ont étroitement collaboré dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement provincial de DKI Jakarta est prêt à devenir le centre des arts et de la culture en Asie. Le gouverneur de la province de Jakarta, Anies Rashid Baswedan, a déclaré dans une déclaration écrite mardi que la revitalisation de Taman Ismail Marzuki, TIM, contribuait à faire de Jakarta un centre des arts et de la culture asiatique. Selon lui, il est temps pour Jakarta d'avoir un centre de l'art au niveau international. Il souhaite que Jakarta puisse accueillir les événements artistiques et culturels mondiaux. L'agent par intérim du Bureau de tourisme et de la culture de la province du DKI Jakarta, Asien Toro, a expliqué que la revitalisation du TIM débuterait en 2019. Le développement dure 2 ans. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'impact de la réduction de la guerre commerciale sur le renforcement de rupiah ». Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, a déclaré que rupiah avait une chance de continuer à se renforcer, surtout après la pression de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a commencé à se calmer. Cela a été déclaré par Darmin dans le CEO Networking 2018 à Jakarta lundi 3 décembre. En comparaison avec les autres pays en développement, selon Darmin, rupiah a connu le renforcement le plus rapide. Même le renforcement de rupiah est meilleur que celui des pays de l'ASEAN et d'autres pays tels que le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Turquie. À l'ouverture du commerce cette semaine, rupiah s'est apprécié par rapport au dollar américain. Le taux de change de rupiah ayant atteint une valeur de 15 000 rupiah par un dollar américain, cette semaine a atteint une valeur supérieure de 14,270 rupiah par dollar américain. La réunion positive du président américain Donald Trump et du président chinois Xi Jinping est devenue l'un des déclencheurs. Comme rapporté par CNBC dimanche, les deux dirigeants ont convenu qu'un tarif supplémentaire ne serait imposé après le 1er janvier 2019. C'est ce qui est censé faire disparaître la guerre commerciale. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a commencé lorsque les États-Unis ont menacé d'appliquer des droits de douane sur les produits importés, y compris la Chine. Le 6 juillet 2018, le gouvernement américain dirigé par Donald Trump avait imposé un droit de douane sur les importations de marchandises chinoises s'élevant à 34 milliards de dollars américains. Donald Trump avait alors menacé de multiplier les conflits commerciaux avec le projet d'appliquer des droits pouvant atteindre 450 milliards de dollars américains sur les produits chinois si la Chine réagissait contre la politique américaine. Ce sentiment avait exercé une pression sur le marché financier, notamment les actions, les devises et le commerce mondial. La diminution de la tension de la guerre commerciale outre d'avoir le potentiel de renforcement des taux de change de rupiah par rapport au dollar américain devrait également relancer la mise en œuvre du programme de politique économique du gouvernement indonésien visant à apporter des améliorations telles que l'amélioration de la qualité des infrastructures, des ressources humaines et la redistribution des terres. Avant le renforcement de la valeur de rupiah par rapport au dollar américain, le système économique indonésien étant devenu très stable, les prix des produits de base peuvent être atteints par tous. Espérons que l'augmentation de la valeur de rupiah sera un bon signe pour le progrès de l'Indonésie. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la journée de la flotte. Après que les forces de la marine remplissent tous les éléments de force, tels que les navires sur l'eau, les navires sous-marins, les vols, les forces de débarquement et les bases aériennes, l'établissement de commandement de la flotte au quai d'Ujung, Surabaya, est officiellement inauguré le 5 décembre 1954 par le chef d'état-major de la marine, l'amiral de TNI R.E. Marta Dinata. Sur la base de la considération des dirigeants de la marine, la journée de la flotte a été confirmée par le décret du chef d'état-major de la marine numéro SCEP 4032 en 1987, du 17 novembre 1987, et le décret du chef d'état-major de la marine numéro SCEP en 67 en 1994, du 1er juillet 1994. On fixe que le jour de l'inauguration du commandement de la flotte, le 5 décembre, a été proclamé comme journée de la flotte de la République d'Indonésie, qui est la réaffirmation de l'existence de la flotte indonésienne, est aussi comme la journée de la marine nationale indonésienne. L'autre information est sur l'anniversaire de Batan. Le développement et l'utilisation de la technologie nucléaire en Indonésie ont commencé avec la création du comité d'état d'enquête sur les radioactives en 1954. Le comité d'état était chargé d'enquêter sur la possibilité des chutes radioactives provenant des sédames nucléaires dans le Pacifique, en prêtant d'attention au développement de l'utilisation de l'énergie atomique pour le bien-être du peuple par l'intermédiaire du règlement gouvernemental numéro 65 de 1958, le 5 décembre 1968, le Conseil de l'énergie atomique et l'Institut de l'énergie atomique ont été formés le 5 décembre 1958, qui a ensuite été perfectionné pour devenir l'Agence nationale de l'énergie atomique ou BATAN sur la base de la loi numéro 31-1964 concernant les dispositions de base de l'énergie atomique. Ensuite, chaque 5 décembre, qui est la date historique pour le développement de la technologie nucléaire en Indonésie, a été désigné comme l'anniversaire de Batan. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée internationale des volontaires le 5 décembre. Les Nations Unies, par la résolution numéro 40 de 112 du 17 décembre 1985, ont désigné le 5 décembre comme Journée internationale des volontaires. La journée était consacrée au respect des organisations, des communautés et des individus qui apportent systématiquement des contributions sociales et économiques concrètes à la communauté et à l'environnement. Cette Journée internationale des volontaires fait partie des jours commémoratifs des Nations Unies. Serviteurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Sagrita, pour la rubrique suivante, nous vous présentons maintenant mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie et l'Arabie Saoudite collaborent dans les enquêtes sur les vols ». L'Indonésie et l'Arabie Saoudite ont signé un mémorandum de coopération concernant les enquêtes sur les accidents d'aviation et la coopération bilatérale. Cette collaboration a été lancée depuis un atelier à Jeddah en mars. Au cours de l'atelier, les délégués de l'Indonésie et de l'Arabie Saoudite ont tenu une réunion bilatérale qui a abouti à un projet de mémorandum de coopération dont l'objectif principal était d'améliorer la sécurité des vols. La déclaration écrite du consulat général d'Indonésie à Jeddah, reçue à Jakarta dimanche, indique que le mémorandum de coopération a été signé par le président du Comité national de la sécurité des transports de l'Indonésie, Suryanto Cahyono, et le directeur général du Bureau des enquêtes sur l'aviation saoudienne. Abdullah Ofelemban, Bureau des enquêtes de vol jeudi. L'Indonésie et l'Arabie Saoudite sont des pays membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les deux pays ont convenu d'améliorer la sécurité des vols comme mandaté par l'annexe 13 de la Convention de Chicago en mettant l'accent sur des activités concrètes, à savoir la formation et les centres d'expertise, d'information et d'expérience. Cette coopération couvre l'offre d'assistance et l'utilisation du personnel d'enquête sur la sécurité du transport aérien, des installations et des équipements considérés comme appropriés et comme ressources adéquates. L'assistance peut inclure une expertise en ingénierie, les opérations, les enregistreurs de vol, les ressources humaines et la gestion organisationnelle. Deuxièmement, faciliter la participation d'enquêteurs des autres parties en tant qu'observateurs aux enquêtes sur les accidents d'aéronefs et les incidents graves. L'objectif est d'améliorer la compréhension des autres parties en ce qui concerne les exigences et les procédures d'enquête. Troisièmement, les ressources, si possible, on peut mobiliser l'assistance de l'équipe dans le processus d'enquête, y compris les spécialistes des enregistreurs de vol et d'autres spécialistes techniques, à la partie qui demande à être membre de l'équipe d'enquête lors de faire l'enquête. Quatrièmement, prenez contact régulièrement et organisez des visites ou des réunions avec d'autres parties. L'objectif est d'échanger des expériences, des compétences et des connaissances techniques. Le Bureau des enquêtes aéronautiques a le projet de réaliser une étude comparative avec la Communauté nationale de la sécurité des transports d'Indonésie afin d'étudier la structure organisationnelle du Comité indonésien de la sécurité des transports. La délégation indonésienne a ensuite été invitée à visiter le laboratoire du Bureau des enquêtes sur l'aviation en Arabie Saoudite. L'un des laboratoires les plus complets en matière d'équipement d'enquête, en particulier pour l'aviation. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Serviteur, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, bienvenue au magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les alimentations, les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous inviterons à visiter Lombok dans la province de Nusa Tenggara Ouest. Restez à l'écoute. Sagrita, si vous aimez le tourisme nautique, le centre de Lombok devient un lieu de séjour idéal. Ici, il y a la belle plage de Kuta Mandalika. En outre, ici, il y a aussi une cascade exotique qui devrait certainement être visitée. Il s'agit de la cascade Batu Janggot, située dans le village d'Aikberik, Batu Liang Nord, Lombok Centre, Nusa Tenggara Ouest. La cascade Batu Janggot est le lieu idéal pour les touristes qui aiment le tourisme nautique. De la ville de Mataram, le lieu a une distance d'environ 45 km ou environ 45 minutes en voiture ou en moto. L'accès routier à l'emplacement de la cascade est assez facile car il a la même direction que deux autres objets touristiques bien connus, à savoir les cascades Benang Kelambu et Benang Setukel. Bien que son accès soit assez facile, mais environ 1,5 km avant d'entrer dans la cascade de Batu Janggot, la condition de la route est sous forme de la terre et de pierre. Assurez-vous que votre voiture ou votre moto est en bon état. Du parking à la cascade de Batu Janggot, il est assez proche, mais pour se rendre sur place, les touristes doivent descendre les escaliers entourés d'arbres. Après avoir descendu quelques marches, vous verrez une vue de l'eau qui tombe du haut de la falaise. L'eau est si claire parce qu'avant de tomber en chute d'eau, l'eau provient de la terre. Ensuite, le voyage vers la cascade se poursuit en descendant une rivière à découverte qui est assez profonde. Mais n'ayez pas à vous inquiéter pour descendre. Le responsable de l'objet touristique a déjà fait un robuste escalier en bois. En plus de chemin menant à la cascade, les escaliers peuvent également servir de spot pour prendre des photos. La cascade Batu Janggot n'est pas seulement unique en raison de ses sources d'eau, mais aussi de la haute falaise qui est au bord de la rivière. La falaise forte est robuste et vue de manière plus exotique si elle est vue du bas. Satisfait pour profiter du paysage, les touristes peuvent s'imprégner au bord de l'étang. Sa place est sûre car elle est loin de la chute d'eau. Certains touristes essaient généralement de se faire sensation en sautant du sommet à l'étang. Cependant, vous devez faire attention lorsque vous nagez, surtout lors de la saison de pluie. En plus de profiter des paysages naturels du complexe de la cascade de Batu Janggot, les touristes peuvent également essayer des manèges de jour. L'un d'entre eux est le renard volant qui est sûr et offre également une sensation inoubliable. Si vous êtes intéressé par la beauté de la cascade, vous ne payez que le ticket de parking de 5000 rupiah. Vous serez satisfait de jouer d'eau. Serviteurs, c'était notre programme Le Magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler l'Indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Labuan Bajo. Je répète. Labuan Bajo. Je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Labuan Bajo. Les personnages sont Dinda et Enda. L'emplacement est la maison de Joko. La situation, Tony et Enda parlent d'attractions touristiques célèbres en Indonésie.
Apakah kamu tahu Labuan Bajo?
Iya, itu tempat wisata yang terkenal di Indonesia.
Mengapa pantai itu terkenal?
Sebab terumbu karang dan pemandangannya sangat indah.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, Labuan Bajo. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Terkenal, terkenal, qui signifie célèbre. Terumbu karang, qui signifie récif corallien. Pantai, pantai, qui signifie plage. Pemandangan, pemandangan, qui signifie paysage. Karena, karena, qui signifie parce que. Sebab, sebab, qui signifie cause. Apakah kamu tahu Labuan Bajo? Apakah kamu tahu Labuan Bajo? Qui signifie connaissez-vous Labuan Bajo? Itu tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Itu tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Qui signifie c'est un site touristique célèbre en Indonésie. Mengapa pantai itu terkenal? Mengapa pantai itu terkenal? Qui signifie pourquoi la plage est-elle célèbre? Karena terumbu karang dan pemandangannya sangat indah. Karena terumbu karang dan pemandangannya sangat indah. Qui signifie parce que les récifs coralliens et les paysages sont très beaux. Dans le dialogue, Tony et Enda parlent d'un lieu touristique, Labuan Bajo. Tony n'a pas encore visité là-bas. Il veut savoir pourquoi la plage est célèbre. Pour savoir cela, Tony demande pourquoi la plage est célèbre. Enda répondait en révélant la raison qui utilise le mot « cause » parce que les récifs coralliens et les paysages sont très beaux. Le mot « la cause » signifie la même chose avec « parce que ». Tony, mengapa banyak orang pergi ke Pulau Bali? Mengapa banyak orang pergi ke Pulau Bali? En français, pourquoi beaucoup de gens vont à Bali? Indah, sebab pemandangannya indah. Sebab pemandangannya indah. En français, parce que le paysage est magnifique. Un autre exemple, Tony, mengapa Raja Ampat sangat terkenal? Mengapa Raja Ampat sangat terkenal? En français, pourquoi Raja Ampat est-il si célèbre? Indah, karena pemandangan di bawah lautnya sangat indah. Karena pemandangan di bawah lautnya sangat indah. En français, parce que le paysage sous la mer est très beau. L'Indonésie est un état insulaire. Par conséquent, en Indonésie, il y a beaucoup de plages. Certaines attractions touristiques en Indonésie ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, entre autres Raja Ampat et Labuan Bajo. Avant de terminer le programme de l'apprendre l'indonésien, pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois.
Apakah kamu tahu Labuan Bajo?
Iya, Itu tempat wisata yang terkenal di Indonesia.
Mengapa pantai itu terkenal?
Sebab terumbu karang dan pemandangannya sangat indah.
Chers amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'Indonésien pour aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'Indonésien. On se trouve la semaine prochaine et au revoir.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. On se retrouve encore dans la rubrique magazine musical, un programme qui vous présente des chansons indonésiennes traditionnelles et modernes. Dans cette édition, nous allons présenter des chansons pop d'un groupe de musique qui s'appelle Payung Teduh. Bon, chers amis, écoutons maintenant la première chanson intitulée Sebuah Lagu, ou en français, Une chanson.
Taburan
Nous avons écouté une chanson intitulée « Sebuah lagu » ou « Une chanson » qui a été publiée par le groupe de musique Payung Teduh en novembre 2018. Ce groupe est devenu le premier groupe indonésien à contribuer des chansons au film de Disney. Les paroles de cette chanson intitulée « Sebuah lagu » ou « Une chanson » racontent une amitié. Le thème de l'amitié qui est si fort a fait Payung Teduh pour coopérer avec la société de divertissement et de médias internationaux Walt Disney. Marsha Aditya a été choisie comme chanteuse de Payung Teduh, notamment pour la chanson Sebuah Lagu. Et en fait, elle est la gérante de Payung Teduh, mais elle a été plusieurs fois chanteuse pour ce groupe. Il n'a pas encore trouvé de chanteur officiel depuis 2017 parce que Istiqomah Jamat a démissionné comme chanteur de Payung Teduh depuis l'année dernière. Chers amis, passons tout de suite à la deuxième chanson de Payung Teduh intitulée « Untuk perempuan yang sedang dalam pelukan » ou en français « Pour la femme qui est embrassée ». Bonne écoute.
Merasa malu semakin mataku tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi sedikit cemas banyak.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous êtes en train d'écouter des chansons indonésiennes chantées par groupe de musique Payung Teduh. Et vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Pour la femme qui est embrassée ». Au juin 2017, Payung Teduh a sorti un nouveau single qui devient une chanson que l'on présente dans chaque fête de mariage intitulée « Akad ». Ou en français, le veau. Les paroles de cette chanson parlent clairement d'un homme qui demande la main de sa femme pour un mariage. Cette chanson romantique devient tout de suite un symbole représentatif d'amour pour les jeunes qui marchent vers le mariage. Bon, chers amis, on arrive à la fin de ce programme et pour mettre fin à cette édition de magazine musical, je vous présente deux autres chansons de Payung Teduh intitulées Akad ou Lover et puis Cerita tentang Gunung dan Laut ou en français L'histoire sur la mer et les montagnes. Merci beaucoup de votre attention et au revoir.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu kusyukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Tertawa, namun bila saat berpisah telah
Cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama. Istriku.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Aku pernah
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.